Bonjour, nous sommes Maxime et Paul. Voici notre nouveau programme écolytique.
Nous allons vous parler de thèmes géopolitiques. Chaque émission finira avec 5 nouvelles écologiques.
Aujourd'hui au programme, les élections américaines.
Allons-y, écolytique, c'est dans un instant.
Comme vous le savez certainement, ce mercredi 6 novembre, le résultat des élections américaines est tombé. Et après une longue campagne électorale où le mystère et l'intrigue régnaient,
c'est Donald Trump qui s'est imposé aux élections législatives avec 295 grands électeurs, tandis que Kamala Harris en avait que 244. Vous vous êtes peut-être perdu dans ces termes-là, mais on est là pour vous expliquer.
Commençons par aborder le système de vote américain.
Comment ça fonctionne exactement ?
Alors, le système politique aux États-Unis est différent. Les Américains ne votent pas directement pour leur président. Ils vont plutôt élire les grands électeurs. Chaque État a un nombre de grands électeurs défini en fonction de sa population.
Par exemple, l'État le plus peuplé, la Californie, compte 54 grands électeurs. Mais au Vermont, un plus petit État, il n'y en a que 3.
Mais comment le candidat peut-il gagner ?
Pour remporter l'élection, le candidat doit obtenir l'appui de 270 grands électeurs, soit la moitié plus 1 du collège électoral, composé de 538 grands électeurs.
Dans la grande majorité des États, le parti qui obtient le plus de votes remporte l'ensemble des grands électeurs de l'État.
Par exemple, si un candidat remporte la Floride par un seul vote, il obtient tout de même les 30 grands électeurs de l'État.
Ce système fait en sorte qu'un candidat peut remporter la présidence sans obtenir la majorité du vote populaire. C'est arrivé à 5 reprises dans l'histoire américaine.
Mais peux-tu me donner un exemple de la dernière fois que ceci est arrivé ?
La dernière fois, en 2016, Hillary Clinton avait recueilli 3 millions de voix de plus que Donald Trump. Elle avait quand même perdu l'élection.
Certains États sont traditionnellement démocrates, ce qu'on appelle les États bleus, comme la Californie ou New York. Il y a aussi les États rouges, comme la Louisiane ou le Texas, considérés comme acquis par les républicains.
À l'inverse, certains États peuvent basculer d'un côté comme de l'autre et déterminer l'issue de vote.
C'est ce que l'on appelle les États pivots. C'est là où les deux candidats vont concentrer leurs énergies. Par exemple, la Pennsylvanie ou le Michigan. Et c'est là où tout va se jouer.
Quels sont les intérêts politiques de Kamala Harris et de Donald Trump ?
Donald Trump et Kamala Harris sont les deux principaux candidats propices à gagner ce poste de président des États-Unis.
Donald Trump défend le parti républicain et Kamala Harris le parti démocrate.
Mais quels sont les éléments compris dans la défense de ces partis ?
Commençons avec Kamala Harris, la nouvelle candidate du parti démocrate qui pourrait devenir la première femme de l'histoire nord-américaine à gouverner les États-Unis auprès de Walz.
Au niveau immigration, Kamala Harris plaide pour une réforme compréhensive sur l'immigration et défend la protection des immigrants sans papiers et l'aide à tous les arrivés pour les soutenir à obtenir leur citoyenneté.
Au niveau armes à feu, Kamala Harris soutient des mesures de contrôle des armes plus strictes, y compris l'interdiction des armes d'assaut et la mise en œuvre des vérifications communes des antécédents.
Bien qu'elle soit propriétaire d'une arme, elle s'oppose à la possession d'armes et à travailler pour réduire la violence armée.
En ce qui concerne l'avortement, Kamala Harris soutient pleinement le droit à l'avortement et s'oppose à toute interdiction nationale le compromettant.
Elle a ouvertement critiqué les restrictions imposées par les États républicains, affirmant qu'un homme ne doit pas prendre de décision sur le corps des femmes.
Mais quels sont les intérêts politiques de Donald Trump, l'ex-président républicain de 2016 qui s'est joint à Vance ?
Pour l'immigration, Trump déclare qu'on doit sécuriser la frontière entre les États-Unis et le Mexique, surtout dans l'Ouest, touchant la Californie, où ils affluent en grand nombre.
Il est surtout contre des immigrants légaux, disant qu'ils ne contribuent pas suffisamment aux services publics, résultant dans des problèmes socio-économiques.
Pour les armes à feu, Trump a défendu fermement le droit de porter des armes, indispensable pour la défense de ce pays à fort risque criminel, s'opposant à la plupart des mesures de contrôle des armes.
Il a préféré implémenter des nouvelles technologies appelées « bump stocks » pour prévenir que les fusils tirent plus rapidement.
Pour l'avortement, Trump défend le bannissement national de l'avortement et que chaque État puisse choisir par lui-même les décisions sur ce thème.
En plus, il constate que cela finira dans une diminution de la natalité et il ne défend que l'avortement en cas d'inceste ou d'abus sexuels. terminons avec des infos écologiques.
Dans cette partie de l'émission, nous vous proposons un aperçu de 4 nouvelles écologiques marquantes.
Restez avec nous pour découvrir des initiatives et des découvertes qui font avancer la protection de notre planète.
Tout d'abord, le Royaume-Uni a mis fin à sa dépendance au charbon, marquant une étape importante dans sa transition énergétique. Le 30 septembre, la dernière centrale à charbon du pays, à Ratcliffe-on-Soar, a fermé, faisant du Royaume-Uni la première grande économie à abandonner complètement le charbon.
En 2012, le charbon produisait 39% de l'électricité du pays. Mais grâce à l'essor des énergies renouvelables, ce chiffre est désormais supérieur à 50%. Bien que la fermeture des centrales soulève des inquiétudes quant à la perte d'emplois, le gouvernement britannique s'engage à créer de nouveaux emplois verts.
Parallèlement, des pays comme les États-Unis connaissent une forte croissance dans ce secteur, avec près de 3,5 millions de personnes travaillant dans les énergies propres.
Notre deuxième point porte sur des scientifiques en Australie qui ont découvert des coraux tolérants à la chaleur dans la Grande Barrière de Corail, offrant de l'espoir pour la survie de ces écosystèmes face au réchauffement climatique.
Dans une étude, ils ont observé que certaines colonies d'Acropora hyacinthus pouvaient survivre à des températures extrêmes, tandis que d'autres blanchissaient.
Cette diversité pourrait permettre une reproduction sélective des coraux les plus résilients, favorisant des récifs capables de mieux s'adapter à des eaux plus chaudes.
Des essais de reproduction sont déjà en cours, mais les scientifiques soulignent que réduire les émissions de carbone est crucial.
En parallèle, l'initiative Coral Vita aide à faire croître les coraux 50 fois plus vite tout en les exposant à des conditions stressantes pour les préparer aux changements environnementaux.
Troisièmement, Assam, en Inde, a connu une augmentation incroyable de la population de rhinocéros à une corne, passant de seulement 600 dans les années 1960 à plus de 3000 en 2024. Cette hausse quintuplée est le résultat d'efforts de conservation dédiés au cours des 6 dernières décennies.
Le parc national de Kaziranga abrite 80% des rhinocéros d'Inde, avec des populations plus petites dans des régions comme Oran et Pobitora. Le gouvernement a élargi les habitats et restauré des zones clés, ajoutant des centaines de kilomètres carrés pour protéger ces animaux.
Des efforts ont également été faits pour réduire le braconnage, qui a chuté de 86% depuis 2016, bien que l'espèce reste vulnérable en raison du braconnage et de la perte d'habitat. Les progrès d'Assam offrent de l'espoir. Alors que les populations de rhinocéros diminuent à l'échelle mondiale, il existe une solution pour inverser cette tendance.
Notre quatrième point parle des États-Unis, qui ont créé ce mois-ci un nouveau sanctuaire marin national de 4500 m². C'est le troisième plus grand du pays. Il sera géré en collaboration avec les groupes indigènes qui ont lutté pendant des années pour sa création.
De son côté, les Açores ont établi le plus grand sanctuaire marin de l'Atlantique Nord, de la taille de l'Italie. Le Panama a créé le refuge faunique national de Saboga, couvrant 83 km² dans l'archipel des îles Perles, protégeant des espèces comme les tortues marines, les requins marteaux et les baleines à bosse, ainsi qu'une espèce rare, le boa constricteur sabogae.
Bon Paul, je crois qu'on a tout dit.
Oui Maxime, c'est le moment de vous dire au revoir.
Nous vous donnons rendez-vous le mois prochain avec un nouveau sujet.
En attendant, abonnez-vous sur notre site
www.radiolfb.net.
Suivez-nous sur Instagram, @lfbwebradio.
Nous vous laissons en musique avec Freedom par Beyoncé.
Au revoir.
Et bon week-end.